matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
C'est donc reparti pour une nouvelle saison de Sport Matin Dimanche sur Colline avec ce premier rendez-vous que j'ai le plaisir de présenter avec mon compère Jean Grelier. Bonjour Jean.
Bonjour Patrice, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Sport Matin Dimanche que nous avons l'honneur de présenter, comme tu viens de dire Patrice, à l'orée d'une saison 2023-2024 qui va nous amener à ce rendez-vous planétaire dans un peu moins d'un an que seront les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et que pouvions-nous espérer de mieux que la présence ce matin à nos côtés de Hugo Hay, l'athlète du SBAC, qui a déjà réalisé les minima sur 5 mm pour participer à ce summum de la pratique sportive. Nous allons bien entendu tout au long de ce Sport Matin Dimanche échanger avec lui et nous le remercions très sincèrement de sa présence. Nous aurons aussi au téléphone Louise Maraval, l'athlète de l'Anton de Sèvres, championne de France du 400 mètres haies et qui a participé récemment aux Mondiaux de Budapest. Nous parlerons aussi bien entendu des résultats en football avec le match nul des Chamois-Niortais en déplacement à Nancy vendredi soir en National 1, ainsi que la victoire de Cholet à domicile, des résultats aussi en National 2 et National 3 des clubs de la région, et puis le second tour de la Coupe de France avec de nombreux derbies comme celui qui opposera cet après-midi à Combrant l'Interbocage et le CO Cerizet. Quelques résultats en handball avec le premier succès ric-rac des Celloises à domicile rétrogradé en D2 après le feuilleton malheureux de l'été et la défaite des Montcoutantaises en Coupe de France. D'autres résultats, des interviews, restez avec nous.
Et quant à la météo, bien un temps estival annoncé pour ce dimanche avec un mercure qui par endroit dépassera largement les 30 degrés cet après-midi.
Sport Matin Dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Bonjour Hugo, merci d'être avec nous ce matin dans ce Sport Matin Dimanche. Alors, petite coupure, retour dans la famille. Quel état d'esprit, quel sentiment après une année particulière dont nous reparlerons tout à l'heure?
Ouais, petite coupure. Bonjour à tous d'abord, qui va faire du bien surtout au moral parce que la saison a été longue, la saison a été compliquée, beaucoup de bas, un peu de haut et encore des bas. Donc il y a besoin de recharger un peu les batteries. Donc retour dans le bocage, dans la famille, petite vacances la semaine prochaine et puis ensuite on pourra être prêt, avoir bien recharger les batteries, bien être prêt pour repartir pour l'année prochaine et cette année qui va être très très importante.
Alors effectivement, avec la perspective des Jeux Olympiques au mois d'août, un minima qui a été réalisé, bien entendu il y aura sans doute d'autres conditions qu'il faudra réaliser pour participer à ces Jeux, mais déjà dans la tête, comment ça se passe par rapport à cette perspective du mois d'août 2024?
Déjà, ce qui est le seul point positif de mon année, c'est que j'ai réussi à faire les minima déjà pour les Jeux, donc on n'aura pas besoin de courir après le chrono, courir après un meeting, essayer de trouver vraiment les bonnes conditions. On sait que au maximum, on devra juste être performant au championnat de France, si on est plus de 3 à avoir fait les minima, et si on est moins de 3, j'aurai juste à me préparer pour les Jeux, donc avoir qu'une seule échéance à préparer, c'est vraiment un luxe, donc on va essayer d'en profiter, essayer de pouvoir bien travailler sereinement, sans stress, et surtout pouvoir mettre les choses en place pour être performant aux Jeux Olympiques, donc continuer à travailler ma fin de course, ma vitesse, et vraiment, ouais, ça c'est un gros changement par rapport à il y a 3 ans où j'avais dû faire la course vraiment pour me qualifier, alors que là, on est vraiment serein de ce côté-là.
Voilà, on va en parler tout au long de cette émission. Donc on va commencer, Patrice, par la Ligue 1.
Exactement.
Avec les résultats de Nantes, réduit à 10 très tôt dans le match, mais qui a réussi à domicile le match nul contre Marseille à un but partout. Hier soir, match nul également breton entre Brest qui recevait Rennes 0-0 et puis belle victoire de Monaco face à Lens 3-0. Cet après-midi, donc à 13h, Toulouse reçoit Clermont. Le Havre accueillera Lorient, Montpellier se déplacera à Lille et Metz recevra Reims. À 17h, Nice recevra Strasbourg et à 20h45, Lyon accueillera le Paris Saint-Germain. Un petit tour également sur la Ligue 2 avec la victoire ou la défaite de Bordeaux à domicile face à Auxerre 4-2. L'AC Ajaccio et Dunkerque font match nul 2-2. Victoire d'Amiens à domicile face à Guingamp 4-1. Victoire également de Côte d'Angers face à Paris FC, 2-0. Match nul entre le promu Concarneau et Annecy, 1-0. Match nul également entre Grenoble et Bastia, 0-0. Belle victoire de Laval face à Caen, victoire 2-1. Victoire des Lavallois face au leader obtenu dans les arrêts de jeu à la 92e et la 95e minute. Pau et Rodez font match nul, 2-0. Saint-Étienne également face à Valenciennes, 0-0. Et match nul également entre Troyes et Quevilly-Rouen, 2-0. Caen à égalité avec Amiens en tête avec 12 points.
Toujours en football, en national, 4e journée pour les Chamois des Niortais qui sont revenus des terres nancéennes avec un cruel point du match nul, 2-0. Ce sont pourtant les deux Sévriens qui ont ouvert le score avant d'être rejoints. Un pénalty en faveur des Chamois leur permettra de reprendre l'avantage, mais dans le temps additionnel, les Lorrains ont marqué ce but égalisateur. À ce jour, les Chamois pointent au 11e rang au classement. Des Chamois qui ont vu Junior Oletan partir pour 3, une équipe de Ligue 2, en toute fin de Mercato vendredi. De son côté, le SE Cholet s'est imposé à domicile lors de la réception d'Épinal, 2-1. Des Choletais aujourd'hui 9e. Niortais et Choletais se retrouveront d'ailleurs vendredi prochain au stade René Gaillard lors de la 5e journée. Ce match qui débutera à 19h30 sera à suivre en direct et en intégralité sur Colline. On passe à la Nationale 2, Jean.
Et avant la Nationale 2 et les clubs régionaux, Hugo, donc ancien footballeur dans sa jeunesse, toujours un peu un suivi du football, une passion?
Ouais, forcément, je suis beaucoup de sport, je fais le foot. Là, les dernières semaines, beaucoup moins, parce que quand on arrive sur un grand championnat comme ça, faut se mettre dans sa bulle, et en fait, il y a plus grand chose qui compte autour, donc, j'ai vraiment très peu suivi les débuts de championnat. Mais oui, je suis encore assidûment, même si, mon club de cœur, l'Olympique Lyonnais, ne se porte pas très bien, et c'est difficile de continuer à avoir de la passion quand on n'est plus trop en accord avec ce qui se passe au niveau du club, au niveau de l'institution. Mais bon, forcément, c'est un amour de jeunesse, donc ça reste forcément dans le cœur.
Et puis ce soir, un beau match contre le Paris Saint-Germain, peut-être une occasion de repartir en avant pour le club lyonnais.
Une occasion de lancer la saison, mais on c'est vrai qu'on est un club où on a l'habitude d'être très bon dans les gros matchs, mais là, ça, c'est en train de se perdre un petit peu, et j'ai un peu peur pour ce soir, je l'avoue, surtout j'ai vu la compo probable, ça a pas l'air terrible, mais bon, on va espérer que ça relance un peu tout ça et qu'on puisse enfin lancer une bonne dynamique.
Et toujours un œil sur le FCB localement?
Bah toujours, même si je suis de loin. En plus, comme j'habite en Belgique, c'est compliqué d'être vraiment encore implanté dans le local. Mais oui, forcément, un œil sur un peu tous les clubs du Bressuret, pas seulement dans le foot.
Bien entendu en basket, parce que c'est la famille.
Oui, un peu, même si on s'est un peu éloigné ces dernières années.
Et donc en National 2, Patrice, on passe au résultat avec le match nul de La Roche, le nouveau promu dans cet échelon, donc face à la réserve du SCO d'Angers, 1-0. Défaite des Herbiers en déplacement à Blois, 2-1. Et puis défaite également de Saumur qui se déplaçait à Saint-Privé-Saint-Hilaire, 2-1. On passe au National 3. Dans la poule D, où se sont regroupés plusieurs clubs régionaux. Victoire de Chaland à domicile face à Saint-Nazaire, 3-0. Château-Gontier s'incline à Saint-Philbert, 2-0. Le Poiré gagne à domicile face à Sablé, 4-1. Match nul dans le derby vendéen entre les Sables et Fontenay, 2-2. La réserve de Nantes et Choret se séparent sur un score de 1-0. Et les réserves de Laval et de Niort qui sont rencontrées, victoire des Chamois-Niortais, 2-1. Et puis la Châtaigneraie accueillait à domicile donc un des leaders de cette poule, Vertou. Match nul, 2-2. Et puis un peu de frustration pour Charles Devineau, le coach de la Châtaigneraie.
Il y a beaucoup de frustration parce que, en toute humilité, je pense qu'on doit tourner à 2-0, peut-être même 3-0 à la mi-temps. Mais l'importance du troisième but, elle est là, puisqu'eux reviennent à 2-1 sur un pénalty qu'on peut juger sévère. Je pense que les gars ont fait une très très bonne première mi-temps, il faudra s'appuyer là-dessus, c'est sûrement une des bonnes premières mi-temps qu'on a fait depuis très longtemps. On a moins bien tourné en deuxième, ils sont venus nous chercher, ils ont remis un peu plus de duels. On a subi, on n'a pas sorti des ballons propres. Puis on encaisse encore un but sur une action litigieuse. Bon, ils reviennent à 2-2, après on a poussé, on a des grosses grosses occasions, on les met pas au fond. On aurait pu se faire coincer aussi à la fin sur une grossière erreur de notre part cette fois-ci. Maintenant, il y a beaucoup de satisfaction parce qu'on a tenu le rythme, l'intensité était là face à un décador. s'appuyer sur ça. Et puis on va aller chez nos amis fortnésiens la semaine prochaine pour aller chercher des points, parce que c'est important, on est dans un classement. Bien joué, c'est bien, mais il faut être efficace dans les deux surfaces. Et aujourd'hui, c'est un peu le regret, si on doit synthétiser la prise de parole.
Charles Devineau, l'entraîneur de la Châtaigneraie, qui a donc fait match nul hier face au Vertou. 2-2. Week-end également marqué par la Coupe de France. Deuxième tour. Hier, Montcoutan est allé s'imposer en 3-1. Défaite du FC Autiz à l'Alleu 1-0. Cet après-midi, toujours dans cette compétition de tour de Coupe de France. Deuxième tour. Un derby à suivre entre l'Intervocage et Cerisay. Richard Doublé, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct dans ce Sport Matin Dimanche. Un derby donc Bocquin, dans quel état d'esprit l'abordez-vous ce match?
Sereinement. Tout d'abord, on est très content de recevoir nos voisins de Cerisay, contre lesquels on va jouer donc cette année en championnat de Ligue 3. Pour nous, ça va être l'occasion de remettre un petit peu les pieds sur terre. Après l'ascenseur émotionnel de la Coupe des Deux-Sèvres. Donc, les gars ont bien travaillé depuis un mois. Ils travaillent dur. Faut se remettre dedans. Mais on va aborder sereinement et puis sans pression.
On peut attendre un large public cet après-midi?
Oui, tout à fait. Je pense pas. Il n'y a pas beaucoup de matchs dans le secteur. Donc, on espère avoir un petit peu de monde. On ne fait pas plier les entrées non plus. On trouve que c'est une rencontre comme ça, c'est quand même une fête du football. Donc, on ouvre le stade à toute personne.
Cette fête de football, justement, comment l'organisez-vous?
Un petit peu comme d'habitude, dans les éléments des rencontres un peu plus importantes comme ça, on rajoute une deuxième buvette, tout simplement. Et puis, il n'y a rien de particulier sur la préparation des joueurs.
Coup d'envoi à 15h.
Ouais, coup d'envoi à 15h sur le stade de Combre.
Richard Doublé, président de Interbocage, merci beaucoup d'avoir été en direct dans ce Sport Matin Dimanche. Merci à vous
également. Bon match.
Toujours dans cette compétition, on retiendra le match à domicile de Buslor-Tireuil face à Avaï en Châtellerault. Nintré se déplace à Vraire.
Et puis toujours dans ce deuxième tour de la Coupe de France, les Mahorais de Bressuire accueilleront Hervaux Saint-Jouin. Le Pays de Loing recevra Saint-Vendran-Pierget. Et puis Saint-Sauveur se déplacera dans la Vienne à Coussey-les-Bois.
L'Entente Courlay-Chantou-Chapelle est en déplacement à Laigne sur Fontaine. Le FC Bressuire à Laigne sur Usseau. Turébès accueillera USCP.
Et puis les Comoriens de Bressuire accueilleront leurs voisins de Nueil-Aubier. Le Clazet-Bocage se déplace à Mirbeau. Et puis, le Aubin-Rortet recevra l'équipe de Beaumont-Saint-Cyr.
Vrille à domicile sera opposé à Neuville. Coulonges-Chouarcé accueillera les Portugais de Châtellerault et un derby nord de Sévrier entre le Pays Argentonais et Thouars.
Saint-Cerbouille accueillera l'équipe de la Vienne de Ouarée d'Angers. Partenay Viennais se déplacera à Brulin. Et puis, derby aussi dans le sud de Sèvres, puisque la Venise Verte recevra l'équipe des Chérés Saint-Gelais.
À suivre également cet après-midi, Vouillé face à Avenir 79, Saint-Aubin-le-Cloud jouera à domicile face à Saint-Liguerre, ou encore le déplacement du Talus à Aix-Sireuil.
Le pays néo-créchois se déplacera à Néré, l'Absilargeas Moutier sous Chantemer recevra Cherveux, et puis Beauvoir-sur-Niort se déplacera à Plaine-Gâtine.
D'autres rencontres encore, Fénoir-Terre opposé à Sud-Gâtine, SPTT Bessine à l'Étoile Maritime, Gâtifoul se déplacera à Fronté-Frontenay-Saint-Symphorien.
Et puis on en finit avec Niort-Saint-Florent qui se déplacera à Saint-Rogatien, Mansle accueillera le pays mélois, Selvérine se déplacera à Vouneuil-Béruges et puis Saint-Julien-Lars recevra la Clusset Blapombray.
Et toujours en football, c'est un nouveau challenge qui s'ouvre pour le Cerisien Arthur Poincet. À seulement 25 ans, éducateur depuis 2012 et salarié depuis 5 ans du COC, celui qui a également été gardien de but, détenteur d'un brevet d'entraîneur de football. Arthur Poincet donc a présenté sa candidature pour être le nouveau conseiller technique départemental au sein du district, une opportunité qu'il n'a pas mis longtemps à saisir.
Il y avait une demande de recrutement de la part du district qui est venue en avril. Donc du coup, il y a eu un ou deux jours de réflexion sur sauter ou pas sur l'occasion. Et puis, comme j'étais encore en train de passer un diplôme professionnel qui me permettait éventuellement d'avoir cette tâche à pourvoir, je me suis dit allez, on y va, on tente. Il y avait eu une première sélection après pour aller sur des entretiens directement au district sur début juillet, et puis en fonction de ces entretiens le district me fait confiance pour prendre ce nouveau poste, donc heureux.
Quelle sera votre fonction précisément ?
Alors du coup, donc, je viens en remplacement de Jean-Marc Laville, qui du coup est conseiller technique départemental en charge du développement et de l'animation des pratiques. Donc Jean-Marc, que je salue, et du coup qui a passé 22 saisons en tant que CTD au district, donc je prendrai sa place. Et donc du coup, voilà, dans mes missions, il y aura la formation des éducateurs, déjà qui sera un gros volet. Ensuite, on aura tout ce qui va être développement de la pratique féminine, de la pratique loisirs. Il y aura aussi le suivi des labels au niveau des clubs du département. Voilà, plein de missions en lien avec les clubs. Un gros challenge, une très grosse évolution, sachant que du coup, moi, j'ai toujours été dans le cadre club et dans le même depuis toujours. Donc, c'est un grand changement même de vie, au-delà du changement professionnel. Et puis, une belle évolution parce que beaucoup de responsabilités à l'échelle du territoire de Sébrien. Donc oui, un beau challenge.
Quelle sera, à vos yeux, la principale difficulté ?
Le début. Je pense que c'est un petit peu la même chose pour tous les corps de métier, mais le début va être sportif. Je vais vite rentrer dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai dit, la formation des éducateurs sera un gros volet, et puis on va vite y rentrer, fin septembre déjà. Donc je pense que ça va être aussi prendre mes habitudes avec de nouveaux collègues, même si je connais un petit peu certains de mes interlocuteurs, de mes nouveaux collègues. Mais voilà, prendre mes marques tout en débutant déjà le dur de l'aventure fin septembre, donc voilà.
Est-ce que ça va pas trop difficile, justement, vous qui habitez dans le nord du département, d'être souvent dans le sud ?
Alors il y aura un rapprochement du coup dans le sud, parce que du coup mes fonctions m'entraînant à déménager, donc j'aurai toujours des attaches dans le nord, bien évidemment. C'est compliqué d'oublier ses racines, mais du coup il y aura un rapprochement sur le Niortais, donc là l'idée c'est d'aller sur Niort au départ. J'ai de la famille qui est dans le Niortais, donc ça facilite les choses pour l'instant, et puis après on verra début 2024 s'il faut trouver un rapprochement peut-être, voilà, sur le Partenaisien. Ça peut être intéressant, mais en tout cas, il faudra trouver un lieu de vie qui soit assez centré.
Le Cerisien Arthur Poincet, nouveau conseiller technique départemental de football au sein du district.
Sport Matin dimanche avec Cerisier Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
La seconde partie de Sport Matin Dimanche, en vous rappelant le match nul des Chamagnols sur la pelouse de Nancy. 2 buts partout, les Choletais se sont imposés lors de la réception d'Épinal, 2-1. Et dans le championnat de National 3, à retenir le match nul de Choré en déplacement à Nantes, ou encore la victoire de la réserve de Niort face à Laval, 2-1.
Sport Matin Dimanche avec Cerisier Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Sport Matin Dimanche, Jean avec comme invité fil rouge, Hugoé.
Et Hugo, ouais, donc qui est actuellement un peu en stand-by dans le bocage. On va revenir, mais pour l'évacuer, hein, une fois pour toutes, cette saison galère un petit peu 2022-2023. Une blessure à l'automne qui t'empêche de participer au championnat d'Europe de cross. Et puis ensuite, galère avec le Covid, la grippe. Comment on vit ça quand on est un athlète de haut niveau avec des objectifs quand même très précis ?
C'est forcément difficile parce qu'on voit nos objectifs nous passer sous le nez. On voit aussi qu'on ne peut pas s'entraîner, alors que le but c'est de s'entraîner le plus possible pour pouvoir progresser le plus possible. Les échéances sont vraiment, enfin d'abord c'était les orbes de cross qui me sont passées sous le nez, puis la saison hivernale. Donc ouais, c'est pas évident. Tu vois les autres qui progressent, et puis ben moi c'est mon métier, donc je me retrouvais un peu au chômage entre guillemets. Je pouvais pas faire grand chose, et surtout par exemple quand j'étais blessé, tu peux faire autre chose à côté, alors que quand j'étais malade, je pouvais vraiment rien faire parce que j'étais trop fatigué. Donc ouais, on se retrouve un peu sans but, donc c'est compliqué. Après c'est là où mentalement je pense que j'ai bien géré, même si ça m'a pris beaucoup d'énergie. Il faut accepter la situation et aller de l'avant, quoi. Toutes les petites choses que je pouvais faire, je les faisais en pensant déjà à la suite, et petit à petit je me suis remis dedans, j'ai continué à y croire, et dès que ça a été un peu mieux, ça s'est réenclenché de manière positive, même si au début ça a été très long à se mettre en place, parce que forcément j'ai été malade à peu près 3 mois, donc les débuts en course à pied ont été un peu difficiles. Mais là c'était vraiment dur, parce que tu te retrouves à courir avec des très mauvaises sensations, tu te dis que tu viens vraiment de loin, et tu sais pas comment ça va pouvoir se développer, tu sais pas si t'as perdu aussi des capacités vraiment respiratoires avec le Covid. Donc tout ça, il a fallu jongler avec, c'était pas facile, mais bon, on s'en est bien sorti.
Et puis alors cette belle éclaircie de juillet, quoi, c'est cette performance assez extraordinaire parce que c'était la première course de la saison. Donc pour les spécialistes de l'athlétisme, quelquefois on dit il faut faire des courses de préparation sur du plus court, du 1500, du 3000. Là directement un 5000, directement pulvériser ton record personnel, pratiquement de 7 secondes. Ça représente plus de 50 mètres quand même sur une même course. Comment tu expliques cette donc d'abord quelle a été la préparation pour arriver à cet objectif là et puis comment tu as réalisé véritablement cette performance?
Nous en fait j'ai pu recommencer à m'entraîner à partir de la début mars on va dire, mais le vrai entraînement il a commencé à la mi-avril, donc ça nous laissait 2 mois et demi après pour préparer, donc on n'était vraiment pas sûr qu'on allait pouvoir le faire, mais on a laissé les choses venir. En fait on s'est entraîné comme si on n'avait pas d'objectif, on savait pas si on allait pouvoir courir en juillet, en août, en septembre ou peut-être pas du tout, mais on s'est laissé faire, on a travaillé la base et en fait on a vu que c'est assez vite revenu. J'avais passé un cap l'année dernière, donc ça nous a bien aidé. Puis petit à petit, on s'est préparé. On s'est fixé une échéance le 15 juillet. On s'est dit, j'aurais une chance de me qualifier pour les mondes, donc autant la saisir. Et puis après, fallait être fort ce jour-là. Forcément, il fallait avoir les bonnes conditions. J'ai eu de la chance de ce côté-là. Le vent est tombé ce soir-là. Mais oui, on se prépare à avoir une seule chance, c'est pas facile, mais on se retrouve un peu dans une situation au championnat, on va dire, où s'il y a qu'une seule course et si ça passe, ça passe, si ça passe pas, c'est la fin de saison. Donc voilà, c'est aussi excitant, même si ça amène son lot de pression. Et après, c'est sûr que réussir les minima dès une course de rentrée, ça veut dire beaucoup aussi sur notre plan d'entraînement qui est efficace et sur la confiance que je pouvais avoir avant. Mais cette confiance-là, c'est bâti sur les 2 derniers mois d'entraînement qui sont vraiment, vraiment bien passés. Donc voilà, après c'était au-delà de mes espérances parce que là, je fais 13-02 dans une course qui n'était pas optimale. Donc ça veut dire que dans une course parfaite, j'aurais pu aller chercher le record de France qui était à 12-58. Donc non, c'était vraiment génial. Et surtout, j'ai eu des sensations extraordinaires pendant cette course. Je me sentais super, je me sentais invincible. Donc, c'était vraiment un très très haut après le bas qui avait eu tout l'hiver. Mais voilà, on a pris le temps de construire, on a été récompensé.
Une préparation essentiellement en altitude sur les dernières semaines.
Ouais, j'ai à partir du mois de mai, donc j'ai fait tout le mois de mai à Foromeu, dans les Pyrénées. Ensuite, je suis revenu 20 jours en Belgique, et ensuite on a refait 6 semaines, enfin quasiment 5 semaines et demie à Saint-Moritz en Suisse. Donc, beaucoup de temps en altitude, ça a vraiment payé. J'ai reçu le feu vert du médecin pour partir à Foromeu juste 2 jours avant de partir. C'était un peu ric-rac, mais à partir de là, ouais, tout s'est bien passé. Moi, c'est des atmosphères que j'aime bien, les stages. On est vraiment concentré sur l'athlé. Il n'y a pas autre chose pour nous sortir un peu de cette concentration-là. On vit vraiment athlé et ça, c'est important, surtout quand on commence à augmenter un peu la charge d'entraînement, quand on peut bien récupérer à côté, quand on peut vraiment être concentré sur toutes les petites choses, les massages, bien se faire à manger, etc. Et puis être dans l'atmosphère avec le groupe. C'est important pour performer.
Et puis, en l'absence de compétition préparatoire, des séances spécifiques d'affûtage en stage.
C'est un peu le entre guillemets le problème de notre méthode d'entraînement, c'est qu'on n'a pas énormément de grosses séances pour se mettre en confiance. Les grosses séances, ça permet oui de travailler physiquement, mais ça permet aussi de vraiment accumuler de la confiance et pouvoir se dire ok, je sais ce que je vois avant d'arriver à la course. Et moi, j'en ai que 2, on va dire, des très grosses séances, et 2 où j'étais tout seul parce que mon coach était pas là, comme sa femme attendait un enfant. Donc voilà, après j'ai fait des bonnes séances qui nous disaient que j'étais au moins au niveau de mon record, c'est-à-dire autour de 13-10, et sûrement un peu moins si la course était bonne, mais pas de là à espérer être aussi fort. Mais j'ai fait quand même 2 bonnes séances et une autre en juin où on s'est dit le niveau il commence à vraiment être là.
Eh bien, on parlera justement de l'avenir dans quelques instants, mais auparavant, Patrice, on va passer au rugby, en résultat de rugby, avec les Rochelais qui hier soir étaient en déplacement à Clermont. Petite défaite des Rochelais, 11-10 pour Clermont, donc dans une situation particulière puisque l'équipe de France se prépare, il y a beaucoup de Rochelais dans l'équipe de France, le championnat maintenant va être suspendu pendant 2 mois pour se préoccuper donc de ce beau rendez-vous de la Coupe du Monde de rugby qui va se dérouler en France dans les 2 prochains mois. Et puis en National 2, les Niortais vont lancer leur saison cet après-midi en se déplaçant à Langon, donc saison importante aussi pour les Niortais qui, sans nul doute, ont l'objectif de poursuivre leur progression. On va signaler aussi quelques Résultat, avec la 11e place des féminines du triathlon club de Gatine au Grand Prix de Division 1 à Quiberon, des TCGistes qui joueront leur avenir dans cet échelon national lors de la finale dans moins d'une semaine. La victoire du Thouars, c'est Cyril Bosch, c'est au 10 km de Saint-Maxir, tandis que la course féminine a été remportée par Madame Rinaldi. Et puis nous pouvons aussi signaler les trois médailles remportées par Soïfidine Saïd, l'ancien athlète d'Uzbek, toujours bressuré, mais licencié à Mamoudzou, à Mayotte, et qui a participé aux Jeux des îles de l'océan Indien qui se sont déroulés cette semaine à Tananarive. Médaille d'or du 400 mètres air, rappelons qu'il était finaliste des championnats de France et qui est sa spécialité. Il a remporté également les médailles d'argent aux 4x100 mètres et aux 4x400 mètres avec les équipes de Mayotte. Et puis enfin, c'était le week-end de l'UTMB, le Tour du Mont-Blanc. Un Toursais y participait, Benoît Blette, le vigneron bien connu de Oiron. Il a terminé à la 495e place en 35h50. Chapeau, monsieur Blette. Et puis maintenant, il y a les vendanges à faire, monsieur le vigneron.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
La suite de ce SMD du 3 septembre avec le handball, Celles-sur-Belle jouait à domicile hier soir face au Havre. Ce fut chaud, très chaud pour les deux Sévriennes, reléguées, je vous le rappelle, cette saison sur décision administrative dans ce championnat de D2. Ce n'est pourtant pas un championnat facile et les Celloises s'en sont rendues compte hier soir face aux Normandes, menées de 2 buts à 3 minutes de la fin de la rencontre. Le HBC Celle s'est pourtant imposé sur le fil, 26-25, le coach Sélois, Thierry Vincent.
C'est presque miraculeux qu'on ait gagné. Voilà, parce que on n'est pas encore prêt, vu tous les changements qui ont été opérés, là, avec tous les événements de l'été. Et en fait, on travaille depuis lundi avec ce groupe-là, hein, puisqu'on a eu, beaucoup de départs. Il a fallu compenser avec des jeunes du club. Et voilà, match très, 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 très compliqué, mais qui se termine bien. Et encore une fois, un peu miraculeusement, puisqu'on finit par un 3-0 pour nous. Sinon, on était mené de 2 buts à 3 minutes de la fin.
Une victoire que les filles ont été chercher avec les tripes. Hein.
Ah ben là, complètement, c'est pas le handball qui nous a fait gagner. Il y a eu quelques éclats, un petit peu, par moment, des actions assez bien construites, mais le reste du temps, on a bafouillé. Je pense qu'il y avait beaucoup de pression, de tension, des jeunes qui découvrent ce niveau-là, même si c'est pas la LFH, pour elle, c'était une marche énorme avec ce qu'elles avaient vécu jusque-là. Donc, oui, très compliqué.
Vous évoquiez, Thierry, les événements de cet été. Est-ce que ces événements, justement, ont été digérés ou c'est encore au travers de la gorge?
Moi, ce serait mentir que de dire que c'est digéré. Malheureusement, il faut qu'on passe à autre chose. Voilà, donc, aujourd'hui, on essaye tous, moi le premier, de ne plus y penser, mais chaque fois qu'on voit un match de LFH à la télé ou qu'on regarde les résultats, ça nous rappelle qu'on aurait pu y être. Je pense qu'il va falloir un certain temps, comme disait Fernand Reynaud. Mais on verra bien, on verra. De toute façon, on va être confronté là pendant tous les week-ends à des matchs de D2 dans des salles pièges avec des adversaires qui voudront notre scalp. Donc, on va devoir vite tourner la page. Mais c'est très dur, très compliqué.
D'autant plus rageant que Mérignac, de son côté, a réussi à être repêché.
Alors, très honnêtement, et c'est ce que je veux dire, et je l'ai dit hier, et je vais essayer de le faire bien transparaître dans tous mes propos, Mérignac, tant mieux pour eux. Eux, ils n'y sont pour rien, hein, sur les incompétences des organismes de la Fédé. Mérignac en profite et tant mieux pour eux. Eux, ils vont jouer à LFH. Que ce soit justifié ou pas, écoutez, seule la conscience de chacun donnera son avis, mais c'est pas eux qu'il faut en vouloir. Eux, ils profitent de la situation, mais ils ne sont pas responsables de la situation. Les responsables, c'est sûrement nous, puisqu'on n'a pas su montrer suffisamment de garanties, je pense. Mais c'est surtout les gens qui prennent les décisions derrière des bureaux sans savoir les conséquences.
Ouais, ça c'est dit. À l'instant, les propos de Thierry Vincent, le coach de Celles-sur-Belle, des Celloises qui ont bientôt entamé leur championnat de D2, certes dans la douleur hier soir en s'imposant d'un petit but lors de la réception du Havre. Toujours en handball, en Coupe de France féminine, Montcoutant a accueilli Rochechouart. Les Montcoutantaises se sont inclinées sur le score de 15-28. Une défaite logique pour l'entraîneur des Montcoutantaises, Louis Robuchaud.
Une défaite plutôt logique face à un adversaire qui évolue donc à l'échelon au-dessus en National 1 et qui a fini 3e l'année dernière. Un match un peu à deux visages avec une première mi-temps où on arrive à les tenir, On finit à 9-13, je crois, à la fin de la première mi-temps, avec une bonne prestation défensive. Et on a eu les 5 premières minutes de la première mi-temps qui étaient un peu difficiles, avec notamment des exclusions temporaires. Et l'attaque de la deuxième mi-temps, où pareil, on a eu du mal en début, et elles ont pris un peu plus le large. Et après, aussi une très belle prestation des gardiennes en face, qui sont à une vingtaine d'arrêts, je crois, à L2. Et après aussi, donc c'est un résultat logique face à un adversaire plus fort, mais qui nous a permis de travailler et qui nous permettra aussi d'être prêts pour la semaine prochaine, pour la première journée de championnat.
Louis, vous êtes donc le nouvel entraîneur de cette équipe en Coutantaise. On se concentre désormais sur le championnat. Comment la prépare-t-on justement cette nouvelle saison ?
On la prépare avec un bon mois de préparation avec lesquels j'ai pu retrouver les filles le 7 août. Je suis épaulé d'après avec Thibaut, qui est mon préparateur physique aussi, donc qui a pu préparer les joueuses comme il se fallait. C'était aussi donc créer une osmose entre des joueuses qui montent de moins 17 nationales et des filles de pré-nationales aussi, et avec des filles qui ont fait de la nationale une année dernière. Donc c'est créer un projet de jeu commun, réussir à les faire jouer ensemble et pour que ça fasse quelque chose de cohérent sur le terrain.
Un mot sur votre effectif.
Donc on a un effectif de 20 joueuses, donc un groupe élargi de 20 joueuses, comprenant donc des anciennes filles de National 1 et des très jeunes joueuses qui arrivent de National moins 17 nat. Et donc après, à partir de là, on fera un choix avec 12-14 joueuses sur les week-ends. Donc c'est un groupe hétérogène en termes d'âge, mais plutôt homogène sur le plan qualitatif.
Louis Robichon, le nouveau coach des filles de Montcoutant, éliminé hier soir de la Coupe de France, les Montcoutantaises qui entameront leur championnat dès le week-end à venir avec la réception de Limoges.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Avec, je vous le rappelle, Hugo est en invité fil rouge de ce Sport Matin dimanche, Jean.
Oui, alors Hugo, maintenant on va parler de l'avenir. On va laisser cette saison très particulière que tu viens de vivre. Donc là maintenant, l'objectif c'est les Jeux. On va être en liaison avec Louise Maraval, l'athlète de l'Entente Sèvres, qui a connu aussi une très belle saison. Donc comment maintenant, est-ce que l'organisation est en place pour la préparation de ces Jeux Olympiques? La pression commence peut-être à venir, ou alors non, il faut rester encore serein, d'abord prendre du repos et puis ensuite attaquer la préparation.
Non, la pression elle est pas encore là. Le but c'est vraiment de mettre le plus de choses en place pour optimiser nos chances, essayer de maximiser ce qu'on peut faire au moment des Jeux. Mais non, on est un peu trop loin pour avoir la pression, et je pense que ce serait négatif d'en avoir. Par contre, oui, on a déjà fait le briefing, débriefing avec mon coach sur la saison passée et la saison à venir pour savoir qu'est-ce qu'on peut encore améliorer, les petites choses qu'on peut mettre en place, et surtout on s'est dit tous les deux que là fallait vraiment qu'on soit exigeant. Et ça va être le maître mot cette année, avec la consistance, parce que j'ai envie de passer un cap encore à l'entraînement, aller chercher le petit truc qui manque pour être vraiment même compétitif en finale au jeu, sans parler d'une médaille, mais d'être un peu là comme Jimmy a fait dans l'emballage au moment de la finale, et je pense que j'en ai le potentiel. Donc oui, ça commence à venir. Après, comme j'ai dit, j'ai déjà valider les minima, donc ça va nous permettre de pas non plus trop penser au jeu trop tôt, mais d'abord de se concentrer sur nous, sur notre progression et ce qu'on doit mettre en place à l'entraînement, et ensuite la période compétitive elle viendra plus tard dans l'année.
Et comment va s'organiser la saison hivernale, cross, pas cross, salle?
Je vais faire un peu des deux, un peu de cross, un peu de salle, mais surtout consacrer du temps à l'entraînement. Donc les compétitions, elles seront là surtout pour casser un peu la monotonie de l'entraînement et prendre des informations. Je vais sûrement faire 1 ou 2 500 mètres en salle pour voir au niveau de la vitesse. Mais je pense que comme j'ai coupé plus tôt que prévu, je pense qu'il y aura aussi les Europes de cross qui vont venir s'intercaler au mois de décembre si tout se passe bien. Mais on ira sans vraiment le préparer à fond, vraiment sur la préparation, mais avec le niveau que j'ai maintenant, je sais qu'on pourra jouer quelque chose de bien. Et puis c'est toujours une compétition sympa pour entamer la saison, surtout si on peut aller chercher un nouveau titre par équipe.
Et toujours en parlant de course à pied, revenons sur les récents championnats du monde d'athlétisme en Hongrie. Louise Maraval, originaire de la Véry, licenciée au club de l'Entente Sèvres à Saint-Laurent-sur-Sèvre, y participait. Bonjour Louise.
Bonjour.
Merci d'être en direct dans ce Sport Matin dimanche. Rappelez-nous sur quelle distance vous étiez alignée.
Alors, au championnat du monde, je participais au 4x4, et j'ai participé au 4x4 mixte et au 4x4 féminin.
Et pour quel résultat?
Alors, avec le 4x4 mixte, nous avons fini 4e, et le 4x4 féminin, nous avons fini 9e.
Vous avez suivi, enfin, pour votre première participation à ces championnats du monde chez les seniors aux couleurs de la France, que retiendrez-vous?
C'était une expérience incroyable. J'ai eu l'occasion de courir dans un grand stade contre des athlètes que moi j'avais l'habitude de regarder à la télé jusque-là. Donc non, c'était une super expérience partagée en équipe. Donc c'est toujours un plus. Ils m'ont vraiment soutenue pendant le championnat et ça m'a permis d'être. C'est une belle occasion de découvrir ce niveau de performance. Donc j'ai hâte de revivre des moments comme ça.
Alors Louise, vous êtes au club voisin de l'Entente Sèvres. Là, nous avons. Ce matin à Colline, la radio, donc Hugo Hay, qui lui est au club voisin du SBAC. Vous êtes une spécialiste du 400 mètres haies, championne de France du 400 mètres haies. Vous avez fait une dernière ligne droite du 4x400 au championnat espoir assez extraordinaire pour aller remporter le titre. Hugo Hay, c'est un journaliste en devenir, donc je vais lui laisser la parole pour vous poser deux ou trois questions.
Salut Louise. Non, moi je voulais savoir ce que t'as pensé de cette première expérience en équipe de France et est-ce que ça te donne vraiment des billes, on va dire, pour préparer les Jeux de l'année prochaine?
Ouais, complètement. C'était une super opportunité. Après, voilà, j'ai découvert l'équipe de France en relais. Maintenant, mon objectif, c'est de pouvoir aussi les découvrir sur ma discipline, le 400 mètres haies, et donc de me qualifier en individuel. Mais exactement, ça me montre le chemin qui reste à faire pour atteindre le niveau et participer à ce genre de championnat en individuel. Mais ça me donne encore plus envie pour la suite. J'ai adoré ce championnat. J'étais exactement là où j'avais envie d'être et j'ai hâte de retourner au travail pour préparer ça.
Et c'était quoi le sentiment qui a dominé après la 9e place avec les filles? C'était un peu de déception ou quand même la satisfaction d'être là en finale?
On va dire un peu déception forcément, parce que même au niveau du chrono, des choses comme ça, on espérait mieux forcément. Après, c'était voilà, on a eu l'opportunité de courir une finale, ça se prend, c'est toujours une expérience en plus et ça nous permet d'apprendre. Mais forcément, sur le coup, un peu de déception de cette 9e place. Donc avec du recul, c'était cool d'avoir pu participer à cette finale, mais sur le coup, forcément, on était un peu déçus, ouais.
Et t'as apprécié d'être dans un stade de 35 000 personnes, sachant que l'année prochaine, ce sera plus du double normalement au moment des Jeux.
Ouais, c'est incroyable comme ça, quand on rentre, le monde et tout. Moi j'ai adoré et ça m'a porté et j'ai adoré cette atmosphère et juste hâte de vivre ça avec encore plus de personnes et chez nous, ce sera encore plus beau.
Non, c'est sûr que c'est des moments qui sont vraiment sympas. Et quand on arrive à se laisser porter justement par le public et pas être inhibé par tout ça, c'est vraiment intéressant. Et on l'a vu, on a l'impression que la pression elle te glisse dessus. Ça va être quoi l'objectif l'année prochaine en termes chronométriques?
L'objectif, ça va être d'aller chercher les minima pour les Jeux. Donc en passant notamment par les championnats d'Europe qui aura au mois de juin et les championnats de France élite. L'objectif, ce serait d'avoir les minima pour les Jeux pour pouvoir participer aux Jeux sur le 400 mètres haies et intégrer en plus le relais 4x4.
Eh bien, on suivra toute cette saison, bien entendu, Louise, et puis on aura certainement l'occasion de s'entretenir avec vous sur Colline la radio. Merci en tous les cas d'avoir été avec nous ce matin. Et puis, bon repos et bonne préparation pour cette saison olympique. Alors, Hugo.
Merci beaucoup, Louise. Merci à vous.
Merci.
Bonne journée. Au revoir.
Hugo, donc la préparation des Jeux, c'est aussi un peu une préparation collective. L'athlétisme français n'a pas brillé complètement à Budapest, même si on sait que c'est un sport universel, l'athlétisme, que les performances sont de très haut niveau. Il y a eu quand même un petit phénomène qui, en demi-fond en particulier, c'est la présence des Européens. Sur 1500 mètres, avec trois Européens en trois premières places, sur 5000 mètres, où habituellement les Kenyans, les Éthiopiens, les Ougandais squaisaient les premières places. Comment tu fais cette analyse là avec cette arrivée? Alors on va pas parler d'Espagnol de Katir, mais il est là quand même. Et puis Jacob Ibrahimsen qui ont damé le pion avec les Anglais aux Africains.
Oui, on voit que ça change. C'est intéressant, c'est forcément multifactoriel. Il y a le fait que les Européens s'entraînent un peu différemment par rapport à avant, donc on arrive à passer des caps grâce à l'entraînement. Par exemple, nous, la méthode d'entraînement que j'utilise depuis 4 ans, elle est en train de se diffuser petit à petit à d'autres groupes européens, donc il y a ça. Il y a aussi le fait que la lutte antidopage a réussi à rattraper pas mal d'athlètes kényans, que c'est de plus en plus dur d'arriver dopé sur un championnat, donc forcément certains pays sont un peu moins moins bien que qu'avant. Mais c'est sûr que ça donne des idées. En fait, on se dit qu'on peut maintenant, on peut jouer un peu au niveau mondial. Comme je l'ai dit, moi, je sais que je ferai jamais une médaille au niveau mondial. J'ai pas le talent pour ça. Mais par contre, ouais, accéder à un top 8, à un top 10, ça peut être très très intéressant. Et dans notre sport universel, comme tu l'as rappelé, on sait que ça vaut quelque chose. La 9e place de Yann Schrub sur le 10 000 mètres, par exemple, la 9e place de Jimmy Gressier sur le 5 000, c'est des signaux positifs. Et on doit prendre ça. On doit pas juste se dire, ah oui, c'est pas une médaille, c'est pas une finale. Non, c'est pas ça. C'est des très bons résultats et qu'on n'avait pas avant, surtout dans un contexte là qui se densifie. Oui, certains pays africains sont moins bons, mais au niveau global, le niveau est vraiment meilleur qu'avant. Même s'il y a eu aussi forcément la révolution des chaussures qui nous font aller plus vite sur la piste. Mais voilà, le niveau est dense et ça donne vraiment envie. Et c'est pour ça que nous maintenant, on se dit que si je peux arriver dans les meilleures conditions à Paris, le but sera de faire un top 8. Vraiment, d'abord rentrer en finale et ensuite le top 8. On sait que c'est possible. Et si je fais ça, ouais, je serai vraiment super heureux.
Alors, on va parler de la situation de l'athlétisme en France avec les points forts, notamment on pense au haies et puis d'autres points plus faibles. On pense actuellement au sprint. Tu vis au sein de cette équipe de France. La ministre avait convoqué donc les principaux dirigeants. Il aurait mieux valu que ça se fasse 10 ans avant les Jeux Olympiques plutôt que une année. Bref, Stéphane Diagana sur France 2 qui a été remarquable pour la retransmission des championnats du monde. Remarquable pour les championnats du monde, mais malheureusement les chaînes publiques ne font plus beaucoup d'athlétisme, notamment lorsqu'il s'agit de championnats nationaux. Comment tu analyses un petit peu cet environnement à la fois de la fédération puis de l'athlétisme en général, parce que comme tu l'as dit, c'est le premier sport olympique et l'année prochaine, le Stade de France vibrera sans doute aussi aux possibles espoirs des athlètes français.
Bon, on espère déjà que le fait de courir en France devant les 85 000 personnes ou 80 000 personnes qui seront derrière nous, ça va pousser les athlètes français à se transcender, que ce soit dans l'athlétisme ou dans d'autres sports, mais ce sera pas suffisant forcément. Et à un moment donné, c'est le physique qui parle. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'ambiance en équipe de France, elle est bonne entre les athlètes. On n'est pas miné ou quoi. C'est pas du tout ça. Il manque un peu de cohésion parce que certains décideurs arrivent pas à créer un peu ça, cet engouement, ce truc un peu du sport collectif dans le sport individuel. Donc c'est dommage. Mais après, oui, les décisions, elles auraient dû être prises il y a déjà quelques années sur une politique de long terme. Et même à court terme, il y a des choses qui peuvent être faites un peu dans l'urgence et qui sont pas forcément faites. Donc c'est dommage parce que on avait du temps pour préparer vraiment cette échéance de Paris 2024. Et là, on commence déjà à nous parler de Los Angeles 2028, en fait, parce qu'on sait qu'on est en retard.
Alors justement, à titre personnel, maintenant on parle de Paris 2024, bien entendu, c'est l'objectif à court terme. Comme tu l'as dit, tu es un athlète professionnel. Comment après Paris 2024, après une place, pourquoi pas, dans les 8 premiers, tu regardes les perspectives de ta carrière ensuite? On reste sur 5 000, c'est peut-être 10 000, pourquoi pas un jour cette grande épreuve du marathon? Comment la carrière du Goët peut se évoluer?
Bah, ce sera pas le marathon, en tout cas, parce que j'ai pas les capacités physiques, musculaires pour ça. Moi, je suis quelqu'un qui est fragile. Donc, augmenter les kilomètres à l'entraînement sera pas forcément ça. Je suis quelqu'un qui a une foulée qui est pas très économique, entre guillemets. Donc non, c'est pas là où je vais être le meilleur. Par contre, oui, je vais tester un 10 000 l'année d'après les Jeux, forcément, pour voir un peu où j'en suis, si ça peut être une discipline qui me convient. Mais, les perspectives, ouais, elles restent sur la piste. J'ai loupé les championnats du monde l'année dernière. Cette année, je suis arrivé pas dans les meilleures conditions. Donc, j'ai encore beaucoup à faire dans ma carrière. Et mine de rien, le temps y passe. Donc, non, j'ai envie d'aller chercher le plus possible. Il y aura les championnats du monde à Tokyo l'année suivante. J'ai envie d'aller prendre des médailles aux championnats d'Europe. Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et je sais que Paris 2024, oui, ce sera un aboutissement parce que on nous en a parlé depuis 10 ans, parce que c'est les Jeux, parce que j'aurai 27 ans. Donc, c'est un peu le top de ma carrière. Mais derrière, il y aura autre chose. Et je sais que voilà, ça va pas s'arrêter là.
Merci Hugo d'avoir été dans Sport Matin dimanche. On va te souhaiter une bonne préparation, d'éliminer le chat noir qui t'a suivi tout au long de cette saison. Puis bien entendu, à Colline, on suivra cette
cette possible deuxième participation aux Jeux Olympiques. Les minima sont faits. On passe à Jean-Olivier Brosseau qui en 96 et puis Laurence Billy, bien entendu, les Boquins qui ont participé aux Jeux Olympiques. Et bien, je pense que tout le monde sera à tes côtés pour te porter dans cette nouvelle aventure.
J'espère bien. Merci à vous. Merci pour l'invitation et à l'année prochaine.